Bienvenue à ce discours. Je partage souvent, très souvent, le fait de ce que c'est pour moi en fait de préparer des discours, de donner des discours. C'est tout un processus qui fait partie de ma pratique, qui est vraiment très riche en fait pour moi. Par exemple, hier, j'ai pris la journée pour plonger à l'intérieur de moi-même, plonger dans mes pensées, laisser courir mes réflexions, voir ce que je voulais amener. Et tout ça, en fait, est riche. Ça me permet d'articuler ma propre expérience et trouver des directions et qu'est-ce qui serait utile. Là, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui serait utile, en fait? Qu'est-ce qui serait utile? J'essaie toujours de revenir à ça. Et ce n'est pas toujours clair, d'ailleurs. Hein, et tout le processus, en fait, n'est pas clair. Ça se passe en moment de compréhension et puis de confusion en fait. Il y a une alternance de compréhension et de confusion constante et qui au début était assez perturbante quand je commençais à enseigner parce qu'on a envie d'arriver à quelque chose de très cohérent et solide et accessible et qu'on peut attraper et montrer et étaler devant comme ça. Et c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas pour moi. Et pour personne, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de naturel dans cette clarté qui émerge et puis qui disparaît, et que je pense que tout le monde peut comprendre et se relier à ça, à ces moments de grande compréhension qu'on a, où tout apparaît clairement, et puis des moments où, en fait, c'est plus clair du tout. Et là, donc, dans ces moments de discours, c'est ça aussi. Il y a ces moments, en fait, pour vous comme pour moi, il y a des moments où c'est plus clair, des moments où c'est moins clair. Et il faut toujours bien se rappeler, c'est quelque chose que j'avais apprécié quand je travaillais avec Michel Todi, qui est un philosophe très intéressant, et qui disait, quand on partait dans une certaine direction, il disait, voilà, on va ouvrir un chantier dans cette direction. Et c'est ça, en fait. C'est un chantier, c'est pas un produit fini. Et jamais je n'ai la croyance ou la prétention d'être à même d'amener un produit fini. C'est-à-dire que ce que je partage maintenant sera le même thème si je l'abordais dans 5 ans, ce serait différent. Il y a des choses qui seraient les mêmes, il y a des choses qui seraient peut-être en contradiction. Il y a des vérités plateaux aussi, c'est-à-dire des... comment on les appelle, stepping stone en anglais, c'est-à-dire qu'on a une compréhension qui est juste pour nous à ce moment-là et qui va nous permettre d'arriver à une autre compréhension, qui peut-être même remettra celle-là en question, en fait, et fera que celle-là apparaîtra comme plus juste. Mais en fait, c'est pas qu'elle n'est plus juste, c'est qu'elle était juste à ce moment-là et puis elle n'est plus juste. Et on voit exactement la même chose avec la science. La science fonctionne comme ça aussi. La science fonctionne de stepping stone en stepping stone. Et une compréhension scientifique va permettre d'en avoir une autre qui sera plus fine et qui remettra en question cette compréhension qui pourtant était si utile et si juste à l'époque. Comme on voit la relativité d'Einstein, par exemple, par rapport à la notion du temps de Newton, la relativité d'Einstein, qui démontre en fait que la manière de voir de Newton, de voir le temps et l'espace, on pourrait dire était fausse, mais en fait c'est pas faux. C'était juste à ce moment-là, et c'est toujours juste maintenant, puisque c'est toujours ce qu'on apprend à l'école, et qu'on utilise aussi pour des prédictions scientifiques, parce que la relativité est très complexe à utiliser. Donc on utilise toujours la physique de Newton, alors qu'on sait qu'en fait le temps et l'espace sont interdépendants et pas de données complètement séparées, stables et immuables. Et c'est pareil pour nous en fait. On avance de vérité en vérité. Et quand on dit une vérité comme ça, comme si elle était juste, ultimement, c'est jamais vrai en fait. Et donc c'est important de savoir ça quand, aussi bien pour moi qui donne un discours, parce que parfois je peux être très assertif, comme les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Et en fait, non. En fait, c'est juste là où j'en suis maintenant, c'est ce que je suis capable d'en dire et c'est ce qui m'est utile. Et puis en y réfléchissant encore, en fait, je vais le voir d'une façon plus subtile et je vais pouvoir affiner ma vue, ou peut-être même la transformer et aller ailleurs, complètement ailleurs. Changer cette manière de voir. Donc, cette notion de vrai et de faux est à prendre avec beaucoup de précautions et surtout dans les milieux spirituels, quand on écoute des enseignements, de ne pas donner un cachet de vérité à ce qui est dit, mais plutôt que ça soit des outils, pas des outils, des notions qui viennent nous permettre de réfléchir, de ressentir, de découvrir en nous et de nous forger notre propre compréhension et notre propre avis. Donc ce discours, ces discours continuent à parler beaucoup d'identité, d'identification, de solidité, de solidification, en fait de qui nous sommes et des idées que nous avons de nous-mêmes aussi. Et dans quelle mesure est-ce que ces idées que nous avons de nous-mêmes sont utiles? Et on aurait tendance à dire, ah non, il faudrait aucune idée de nous-mêmes, et du coup on sera en contact avec la réalité. C'est vraiment pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et donc du coup, dans quelle mesure est-ce que ces idées qu'on a de nous-mêmes sont utiles et fructueuses? Et dans quelle mesure est-ce qu'elles nous séparent ou créent de la souffrance et nous séparent d'une sensation de liberté? Hein, c'est ce genre de questionnements en fait qui sont pour moi à la racine de la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, pour moi, c'est pas juste revenir au silence, c'est aussi revisiter notre identité, notre sensation d'être. D'où la question juste être. Que veut dire juste être? Qu'est-ce que c'est juste être? Je repensais à ce temps quand mon fils avait, je ne sais plus exactement quel âge, peut-être 3 ans ou. Et parfois, j'avais constaté ça plusieurs fois quand on était en voiture, on le conduisait à la crèche et sur le chemin, c'est très joli chez nous. Et il y a plein de choses. Et je lui disais par exemple, c'est arrivé ça plusieurs fois, oh, regarde le cheval. Hein, on passe doucement en voiture, il y a un cheval là dans le pâté. Et il fait où ça, où ça, où ça? Et il y a bien le temps. Hein. La voiture avance, mais il y a le temps de le voir et il voit pas le cheval. Et en fait, j'étais étonné. J'étais étonné, je me dis comment est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas vu, parce que le cheval n'était pas spécialement loin, facile à voir. Mais en fait, j'ai compris que c'était la notion cheval en fait qui n'était pas encore suffisamment installée. Et que comme la notion cheval n'était pas encore suffisamment installée, ce n'était pas facile de le voir rapidement. Et plus une notion est bien installée, quelque part, plus quand on la cherche, c'est facile de voir. Il y a eu des études qui ont été faites qui disent que quand on sait ce qu'on cherche, quand on connaît ce qu'on cherche, alors on le trouve 6 à 7 fois plus rapidement. Par exemple, dans un dessin très confus, si on nous dit cherche un animal, on le trouve, ça va prendre un certain temps, si c'est un hibou par exemple, mais si on nous dit cherche un hibou, on va le trouver beaucoup plus vite. Parce qu'on a déjà une image préconçue de ce qu'on cherche, de ce que c'est un hibou. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on a une idée préconçue de quelque chose, on arrive à le voir. Et si on n'a pas l'idée, on ne le voit pas forcément. Donc ça nous dit en fait que quand on a des idées à propos de certaines choses, c'est ces choses-là qu'on va voir en premier. Beaucoup plus facilement, elles vont nous apparaître, elles vont sortir du décor beaucoup plus vite que les autres. Et les jeunes enfants qui n'ont pas encore conçu tout ce genre de concept, voient de ce que j'en ai entendu dire, de ce que je comprends, voient quand ils sont bébés une seule chose, une unité. Donc si par exemple on imagine une montagne et le ciel, pour nous il y a une montagne et le ciel. Pour eux, il n'y a pas deux choses, il y a une seule chose. Il faut savoir ce que c'est une montagne pour voir la montagne. Sinon c'est une seule chose avec le ciel. Et les arbres qui sont sur la montagne sont la montagne. Ce n'est pas des arbres sur une montagne. Il faut savoir et avoir conceptualisé, rationalisé arbres et montagnes pour voir des arbres sur une montagne. Sinon, on voit des palettes de couleurs, en fait, et des choses très belles, toutes une seule chose, pas plein de choses. Et dans notre éducation, dans l'éducation de l'esprit, on apprend à identifier chaque chose, notamment grâce au langage, à les nommer. Nommer est très important pour pouvoir identifier. Et donc on va nommer arbre, montagne, pierre, table et toutes les choses qu'on va peu à peu croiser. Et puis peu à peu même nommer des émotions et nommer des choses qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir. Encore un exemple, pour les enfants dans les écoles, on essaye, dans les écoles où ça se passe bien, j'ai envie de dire, on essaye d'apprendre aux enfants à nommer les émotions. Parce que quand ils peuvent nommer les émotions, ça veut dire qu'ils peuvent simplement savoir qu'elles sont là et les reconnaître. Ça veut dire que si elles n'ont pas été quelque part comprises et conceptualisées, elles ne sont quelque part pas perçues. Pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce qu'elles ne sont pas reconnues. Donc c'est intéressant ce jeu quand même. Ça veut dire que la conceptualisation des choses est nécessaire aussi à la perception des choses et au fait de discerner avec subtilité et avec clarté. Il y aurait beaucoup, vous voyez, juste ça, juste ce qui vient d'être dit, il y a moyen en fait de continuer, questionner, essayer d'aller plus loin, pousser plus loin la pensée et la compréhension de cette relation entre la perception et la conception. C'est énorme. Donc quand on est enfant, dans ce qu'on nomme et dans ce qu'on essaie de percevoir, de concevoir, c'est aussi l'identité propre. Donc un enfant ne discerne pas de différence entre la montagne et le ciel, mais ne discerne pas non plus, nous dit-on, un petit bébé, de différence entre lui et son environnement. Il n'y a pas moi et mon environnement, parce qu'il n'y a pas encore vraiment la notion moi, il n'y a pas encore vraiment la notion je. Cette notion, elle n'a pas été à la fois, c'est à la fois reconnue et créée. Cette identité propre, cette personnalité, cette individualité. Et peu à peu, on l'apprend à l'enfant, on lui apprend à dire déjà par le fait de nommer toute chose, ça, lui, le sépare de chaque chose. Ça, c'est ça, et ce n'est que ça, ça, c'est ça, et ce n'est que ça. C'est, on rationalise la totalité de la perception, on en fait des rations bien déterminées. L'arbre est l'arbre, la montagne est la montagne, ton père, ta mère, l'école, toi, un nuage, hein? Chaque chose. Et du coup, on fait des rations, on coupe en petits morceaux de manière à pouvoir fonctionner en fait. Parce que si on ne faisait pas ça, on resterait dans une espèce d'unité et on serait complètement incapable de fonctionner. Complètement incapable. Donc c'est un processus qui est absolument nécessaire. Et dans cette rationalisation, peu à peu, on construit aussi l'identité de chaque individu. On individualise en fait quelque chose qui était en totalité. Dans la psychologie occidentale, on appelle ce processus, cette étape s'appelle la construction de l'ego. Ego, dans ce sens-là, n'est pas conçu comme, n'est pas entendu comme quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de confusion au niveau de ce mot ego, qui est entendu très différemment dans les spiritualités qui viennent orientales et dans la psychologie de chez nous. Donc la construction de l'ego, c'est la construction en fait d'une identité. Et elle est C'est un processus important, nécessaire, considéré comme très important dans notre psychologie, parce qu'il nous faut donc une identité, un ego fonctionnel, qui fonctionne bien. Une manière de voir les choses, une manière de se voir soi-même, qui ne crée pas de souffrance et qui soit résiliente, qui puisse se transformer, qui ne soit pas trop serrée, cadrée, tendue. Donc on voit que sans cette étape-là, en fait, on ne pourrait pas fonctionner. Peu à peu, on en vient à un processus de rationaliser, en fait, c'est aussi simplifier. C'est-à-dire, si on ne rationalisait pas, si on n'avait pas une idée des choses, comme je le dis, le hibou, ben, on va très vite voir le hibou dans l'image. Donc ça, c'est pratique, c'est utile, c'est nécessaire. On a besoin en fait de ces concepts. Ça ne serait absolument pas pratique si on n'avait absolument aucun concept pour naviguer dans cette vie. Par exemple, le concept, imaginons par exemple le concept, je pense à l'école, là, le concept d'élève. Voilà. Imaginez les enseignants s'il n'y avait pas le concept d'élève et que c'était, il y avait là que des enfants, tous avec une individualité poétique, des êtres en pleine construction. Et ils ont, en fait, il y a besoin, à certains niveaux, il y a besoin de différents niveaux de lecture. Donc, je pense à l'école parce que justement, encore par rapport à mon fils, il y a des moments où je regrette, en fait, qu'il n'y ait pas cette connexion. Bon, c'est un beau chantier, comme je vous le disais, hein. Je vais le prendre par ailleurs. Avec une citation du philosophe Locke, certains d'entre vous en ont entendu parler, qui est du siècle des Lumières, qui est un philosophe empiriste. Donc, c'est-à-dire, l'empirisme, c'est de considérer que la réalité est perceptible par les sens. Ce qui n'est pas perceptible par les sens, en fait, ne fait pas partie de la réalité. Il nous dit, la mémoire est la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. La mémoire est la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. Ce qui fait que je suis une seule et même personne, c'est que je me souviens de mes actions et perceptions passées. Autrement dit, c'est la mémoire qui fonde l'identité personnelle. Et une citation de David Hume, plus ou moins même époque, écossais. Lorsque j'entre plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, donc là on reconnaît le processus de méditation, lorsque j'entre plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, là on voit, j'appelle moi-même, c'est la conception qui s'est construite quand on était petit enfant. Je tombe toujours sur une perception particulière de la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception et je ne peux rien observer d'autre que la perception. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais tout en même temps. Ce ne peut donc être de l'une de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée de soi est dérivée. Et par conséquent, une telle idée n'existe pas. Je relis la dernière phrase. Ce ne peut donc être de l'une de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée de soi, la conception de soi, la notion de soi est dérivée et par conséquent, une telle idée n'existe pas. Donc pour Locke, ce qui dit, et pour David Hume, ce qu'ils disent là, en fait, c'est que quand ils entrent en eux-mêmes, quand ils se posent, en fait, ils ne constatent que un ensemble de perceptions. Ils ne trouvent pas le soi, le centre, l'identité. Et du coup, eux, philosophes empiristes, disent que cette identité, ce soi, n'existe pas. Ce qui, pour moi, est questionnable comme affirmation. Donc la rationalisation, on le comprend, est une nécessité. Un exemple qui me vient, par exemple, c'est un bûcheron. Et bien, un bûcheron va voir un arbre et va voir tous les arbres d'une façon assez similaire. Il va avoir des petites différences, la taille, le nombre de stères que ça va faire, peut-être comment le couper, mais ça va être assez basique. Il ne va pas voir l'arbre comme verrait le poète. Et ce ne serait pas possible, en fait. Il ne pourrait plus être bûcheron. Parce que, pas simplement parce qu'il n'aurait pas le cœur de le couper, mais parce que le poète va regarder un arbre et s'en émerveiller et en voir toute la subtilité. Et en fait, juste avec un arbre, il va passer énormément de temps. Le bûcheron, lui, n'a pas besoin de voir l'arbre dans toute sa magnificence et dans toute sa subtilité et dans toute sa magie. Lui, ce qu'il a, parce qu'il a besoin d'une vision beaucoup plus basique. pour arriver à pouvoir fonctionner. Et cette vision basique, nous, on en a tous besoin aussi pour voir fonctionner. Par exemple, de voir mon fils comme étant mon fils, c'est utile à certains moments. Et à d'autres moments, c'est problématique. Parce que ça va manquer de subtilité. Ou de voir des élèves comme des élèves, c'est ça que je disais tout à l'heure, ça va être utile à certains moments pour un directeur, pour un enseignant. Et puis à d'autres moments, de voir des élèves et de rester coincé dans cette rationalisation et cette solidification, ce concept élève, et du coup de relationner comme si on relationnait à des concepts, est extrêmement problématique. Ça va manquer énormément de finesse. Mais donc, on peut dire que, oui, c'est des élèves d'un certain point de vue. Et de voir tous ces enfants comme étant des élèves, ça a une place, une nécessité et un rôle et une fonction. Mais d'être coincé dans le fait de ne voir ces enfants que comme des élèves, là, grande tristesse, et ça engendre énormément de souffrance. Ou c'est comme de n'être coincé qu'avoir cette femme comme ma femme, ou cette terre comme ma terre, ou quoi que ce soit, en fait. Par exemple, nous, on a acheté un terrain il y a une dizaine d'années, très, très beau terrain, très beau terrain. Et ça m'a fait bizarre de me dire, c'est mon terrain. Et à un certain niveau, c'est vrai. Mais à un autre niveau, ce n'est pas vrai du tout, parce que ce terrain existe de bien avant moi et existera encore bien après. Donc cette notion, mon terrain, elle est utile. Elle est utile pour que je puisse en prendre soin, de savoir où est son début, de savoir où est sa fin. Cette notion-là est très utile, mais à un autre endroit, elle est problématique. Parce que d'un certain point de vue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible que ça soit mon terrain. Et si moi, je n'ai que l'idée, mon terrain, à ce moment-là, il va y avoir conflit avec les voisins, les gens qui passent. Donc, il faut être capable d'avoir différentes vues, différentes manières de voir. On voit ça avec les pays. Par exemple, la notion la France. Vous voyez ça au niveau de l'empirisme. Les empiriques qui disent n'existe que ce qui est perceptible par les cinq sens. Ben, la France n'est pas perceptible par les cinq sens. C'est une notion. C'est un concept, c'est ce qu'on appelle une réalité conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une convention. Pour que la France soit la France, il faut qu'on soit d'accord, et il faut que les autres pays soient aussi d'accord d'appeler ça la France, ou d'avoir la notion des frontières, ça c'est des frontières de la France, ça c'est la politique de la France. Hein, sinon, un aigle qui passe au-dessus des pays, il ne voit jamais la France. Empiriquement, la France n'existe pas. Donc je ne suis pas d'accord avec Hume de dire « n'existe que ce qui est perceptible par les sens », parce que la France existe bel et bien, mais certes seulement à un niveau. Conventionnellement, et parce que c'est pratique, ça a un côté très pratique d'avoir la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Autriche, et il y a des différences qui sont réelles, mais c'est une création humaine nécessaire pour fonctionner. Ce n'est pas une réalité ultime, c'est une réalité relative. Elle dépend de l'accord des esprits qui le conçoivent pour exister. Et ce qui est très intéressant, et donc c'est ça que les enfants apprennent, c'est peu à peu à concevoir et à donner, et à, surtout quand on parle de l'identité, de se concevoir soi-même. On a une idée à propos de nous-mêmes. Hein? Donc, moi, Denis, père de famille, ceci, cela. Et toutes ces définitions que je peux avoir de moi-même et qui ont bien changé au cours de ma vie, ces définitions que je vais avoir actuellement, sont utiles. Oui, je suis ça, je suis ça, mais d'une façon conventionnelle, d'une façon qui n'est pas éternelle, qui n'est pas... D'abord, je ne suis pas que ça, et aussi, qui n'est pas la seule chose que je suis. On voit ça, parce que sinon, ça cause souffrance. Si on revient au niveau des pays, on le voit, par exemple, on voit Israël, Palestine, par exemple, pour le moment, eh bien, c'est une guerre née pour mon sens, si on y regarde, c'est comme toutes les guerres, hein, c'est au niveau conventionnel en fait. C'est au niveau conventionnel de se sentir israélien ou de se sentir palestinien, c'est déjà d'avoir accepté une identité qu'on nous a donnée quand on était petit. S'il y avait eu personne qui nous l'avait dit, on ne saurait même pas en fait. On serait des gens avec des voisins. On ne serait pas. Et puis, de se sentir juif ou musulman ou chrétien, ben c'est parce que c'est quelque chose qui a été appris. Ça n'existe pas dans les cinq sens. Ce n'est pas perceptible par les cinq sens. C'est de l'ordre du concept. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est là que moi je trouve intéressant de faire la distinction. Le problème est dans le mot existe. Qu'est-ce qui existe? Certaines choses existent sur certains plans de notre expérience et pas à d'autres niveaux. Et le travail de la méditation, c'est d'apprendre à discerner ça. À discerner, oui, ça existe sur ce plan-là et à cet endroit-là, ça n'existe plus. Et c'est cette expérience-là que je trouve une des expériences la plus importante en méditation, c'est de voir ce qui disparaît. De voir ce qui disparaît quand l'esprit ne crée plus, parce que l'esprit a besoin d'être en activité pour ramener cette réalité conceptuelle, pour ramener tous ces concepts. Comme le disait Locke, la mémoire, c'est la mémoire qui lie les perceptions passées aux perceptions présentes et qui crée un sens d'identité. Dans la méditation, quand l'esprit devient silencieux, la notion de France n'existe plus. La France n'existe plus. Au niveau de notre expérience, donc au niveau, j'en parlais un petit peu, au niveau phénoménologique, hein, ontologiquement, la France n'a jamais existé, et phénoménologiquement, au moment où on ne pense pas à la France, dans notre expérience, la France n'existe pas. Et comme en méditation, peu à peu, on ralentit la pensée parce qu'on ne l'encourage pas. C'est bien ça qu'on fait en méditation, on n'encourage pas la pensée. Dans notre expérience, tout un tas de choses disparaissent. Dans le moment, tout un tas de choses disparaissent. Au début, c'est toute une forme d'agitation avec plein d'idées, de concepts, de choses. C'est des mondes, en fait. Parfois, je m'éveille, je suis allongé dans mon lit et mon esprit se tourne vers la méditation, mais il y a plein de pensées qui viennent en même temps et j'ai l'impression de faire des voyages dans des mondes complètement différents, d'être à un moment sur un projet de vacances, 2 minutes après, je me retrouve dans une tension d'une peur que j'ai de rater quelque chose dans mon éducation avec mon enfant. Après, ça va partir sur une compréhension profonde d'un point du dharma et je vis. Et je suis, à ce moment-là, je suis la tension d'avoir peur de rater quelque chose dans mon éducation, je suis l'aisance d'être en vacances, je suis en fait, je me sens être ce qui se produit dans mon esprit. Et ces mondes qui se succèdent les uns derrière les autres. Mais après, quand la méditation s'installe, alors ces mondes-là n'apparaissent plus et les notions n'apparaissent plus. Peu à peu, les notions n'apparaissent plus. Et quand les notions n'apparaissent plus, il reste d'abord beaucoup plus de perception des cinq sens, surtout l'ouïe, on entend beaucoup les sons, la perception du corps, les perceptions tactiles, physiques, vont être beaucoup plus là. Alors que quand on est beaucoup pris dans les notions, on ne les perçoit plus, celles-là. On n'entend pas forcément autour de nous et on ne perçoit plus les sensations physiques. Là, il va y avoir un moment où on va sentir beaucoup plus tout ce qui se passe dans notre corps et entendre beaucoup plus ce qui se produit autour. Et puis, peu à peu, même ça se calme. Peu à peu, même ça se calme. Peu à peu, on entend moins les sons et on sent moins les sensations physiques. Et c'est cette disparition, en fait, qui est intéressante. Parce que ça nous fait voir comment notre identité est multicouche et comment une des difficultés et une chose qui pose problème, c'est notre incapacité à quitter certaines couches quand elles ne sont pas nécessaires, pour se laisser être ce qu'on est plus en profondeur, ce qui est moins construit. Je me rappelle une expérience qu'il y a eu avec des. Qui s'était faite avec des méditants. Il y a eu toute une période, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a eu une période où il y a eu beaucoup d'expériences scientifiques qui se faisaient avec des gens qui avaient beaucoup de méditation. Alors on ne prenait que des gens qui avaient plus de 10 000 heures de méditation. Et ça me faisait rire de savoir quand même comment ils calculent en fait. 10 000 heures comme. Mais en tout cas, bon, je crois que ça veut dire qu'ils en avaient vraiment beaucoup, les mecs. Et l'expérience, c'était. Donc. Il y avait donc un groupe de méditants de haute volée et un groupe de gens qui ne faisaient pas forcément de méditation. Et au groupe on montrait à ces deux groupes un flash, une image avec deux points. Et les deux points étaient de plus en plus rapprochés. Et c'était juste une fraction de seconde. Et à un moment, le groupe de non-méditants ne voyait plus qu'un seul point. Parce que ça allait tellement vite et les points étaient tellement proches qu'ils ne voyaient plus deux points. Et les méditants de longue haleine continuaient à voir que c'était deux points, parce qu'ils voyaient très précisément, très, très vite. Et par contre, aux mêmes méditants après, quand on flashait des lettres de leur alphabet, ils les voyaient, alors que l'autre groupe ne voyait plus qu'il y avait été quelque chose de flashé, ils voyaient encore les lettres. Mais par contre, ils ne reconnaissaient pas des lettres de leur alphabet. Parce qu'il n'y avait plus toute cette interprétation de ce qui était vu. Donc, ils voyaient quelque chose, mais ils voyaient moins bien que les autres que c'était une lettre de l'alphabet. Parce que pour les autres, l'interprétation était encore active. Eux, en fait, le fait de donner un sens aux choses n'était plus activé. La capacité d'interpréter et de reconnaître. En fait. Donc c'était juste de la perception, mais il n'y avait plus la reconnaissance de ce qui était perçu. C'est juste intéressant, mais on voit bien que c'est dysfonctionnel, ce n'est pas possible. On a besoin de cette reconnaissance pour fonctionner, on a besoin de reconnaître qu'une voiture c'est une voiture et que ma voiture c'est ma voiture. On a besoin de reconnaître ça, mais à un certain niveau, mais c'est conceptuel, c'est appris. Pour un animal, une voiture n'est peut-être pas, enfin, il ne voit pas ça comme une voiture. C'est nous qui avons ou une chaise. C'est du bois, c'est juste du bois. Quand j'imagine un bébé ou même un animal ne verra pas des poteaux électriques, il verra des espèces de drôles d'arbres sans branches plantés. Nous, on voit directement. Quand on va voir tout de suite des poteaux électriques. On ne voit pas un bout de bois. Pourtant, c'est un bout de bois, mais c'est des simplifications, c'est des raccourcis, en fait, pour que ça soit fonctionnel. Et ces simplifications et ces raccourcis sont, donc je le dis, hyper utiles, mais hyper problématiques à partir du moment où on croit que ça, c'est la nature des choses. Si le raccourci, c'est ma femme ou mon mari, et que ce n'est plus que ma femme ou mon mari, et que ce n'est plus... que je n'ai plus accès à la beauté, à l'individualité et à cet aspect constamment changeant de la personne avec qui je vis, si c'est juste ma femme ou mon mari, c'est basique et complètement et du coup c'est traumatisant, c'est complètement dysfonctionnel, ça crée énormément de souffrance. Donc ça reste vrai à un certain niveau, mais ça ne peut pas être que ça. Et ce qui crée énormément de souffrance, c'est quand on relationne à nous-mêmes comme ça, et c'est ce qu'on fait. Donc peu à peu, on a forgé cette identité personnelle, cette notion de nous-mêmes, cette sensation d'exister séparément et de façon indépendante. Et ça, avec le temps, c'est solidifié. Et c'est extrêmement réducteur. Les idées qu'on a de qui on est sont extrêmement réductrices. On est complètement, tous beaucoup plus qu'on ne le croit, coincés dans une idée fausse de qui on est. Alors, cette idée, pour certains, est plus fonctionnelle. Elle ne fonctionne pas trop mal. Bon, il y a des bugs et tout, mais bon, là, il y a le développement personnel. On travaille un peu dessus et peu à peu, ça évolue. Pour d'autres, cette identité est beaucoup plus problématique, mais pour aucun, elle n'est ultimement ce que je suis. Et ça, il faut le comprendre pour pouvoir s'en défaire. Il faut voir, c'est à ça que sert la méditation aussi, à mon sens, il faut voir que tout cet aspect-là de nous-mêmes n'apparaît plus quand l'esprit est silencieux. Que la sensation d'être n'est plus être ceci ou être cela. C'est quelque chose sur lequel je reviens encore et encore et encore, parce que ce n'est pas une expérience qu'on fait une fois et on a compris. Ce n'est pas une expérience qui est on-off, genre elle est faite ou elle n'est pas faite. Il y a toujours moyen d'aller plus loin dans cette expérience, de ne plus se sentir être cette identité spécifique. Et il y a une gradation qui semble aller d'une façon infinie vers de plus en plus de vide, dans la capacité de ne plus être personne, de ne plus être quelqu'un. Parce que c'est ça, en fait, c'est cette capacité de ne plus être, de ne plus se sentir être quelqu'un, pour juste être, je pense que je le disais dans le mois passé, juste être, ça peut vouloir dire n'être personne. Dès qu'il y a la nécessité d'être quelqu'un, il y a une activation qui nous déconnecte de la sensation de profondément exister. Comme une distraction de ce qui est essentiel. On agit. C'est plus notre base. Il y avait un enseignant qui appelait ça notre base d'opération. Alors, ce n'est pas du tout poétique. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il disait, d'où est-ce que tu opères? Quelle est ta base d'opération? Et lui, c'était tout le temps son truc. Hein. Et c'est, si on opère depuis cette sensation de « je suis quelqu'un qui s'est construit dans le temps, qui suis devenu ceci, qui suis devenu cela », par exemple, on peut imaginer un politicien, par exemple. Sa base d'opération va être très, très souvent au niveau de son identité, de son rôle. Et comment est-ce qu'il peut laisser tomber de temps en temps cette identité et ce rôle et juste être. Donc, et nous, c'est quoi notre base d'opération? Est-ce qu'on est toujours à cet endroit-là où c'est super construit et où on agit depuis notre rôle et nos idées de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on est capable de lâcher? Et finalement, la méditation, à ce moment-là, ça ne devient plus de la concentration et de tenir à la respiration, mais ça dépend aussi de la capacité de lâcher notre identité, de lâcher tout ce qui a été construit dans le temps, de lâcher tous nos objectifs, de lâcher toutes nos envies, de lâcher tous nos buts, de lâcher toutes nos croyances qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Donc ça devient un lâcher-prise ultime. Plus on pourra lâcher sur la nécessité d'être quelqu'un, ou la nécessité d'avoir solutionné nos problèmes, ou la nécessité de réussir de quelque manière que ce soit, la nécessité d'aboutir, de devenir, plus on pourra lâcher toute cette nécessité, plus l'esprit pourra être naturellement paisible, sans qu'on ait besoin de revenir à la respiration et se concentrer, essayer de le tenir. Les deux sont vrais. La concentration va être nécessaire, parce que l'esprit nous appelle, mais il nous appelle parce qu'il y a cette nécessité d'être quelqu'un, qui est très différente de la sensation de juste être. La nécessité d'être quelqu'un, ce n'est pas la même chose que la sensation de juste être. Et la méditation nous amène à explorer ce mystère qui est si peu nommé et reconnu dans notre monde. Cette possibilité de travailler à notre identité et puis de laisser tomber le truc, et juste être là. Souvent, c'est quelque chose qui me vient en forêt aussi. Dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin d'une identité pour être en forêt parmi les arbres? Est-ce qu'on a vraiment besoin de nos histoires? Est-ce qu'il y a une histoire dont on a besoin? Ou est-ce qu'au contraire, on peut vraiment faire l'expérience de la forêt à partir du moment où on laisse toute la nécessité d'être quelqu'un ou toutes les histoires de côté? Parfois, on entend comme un dénigrement de l'identité construite, comme si notre existence était juste une illusion ou ce genre de choses. Et il y a un aspect, il me semble, je comprends l'analogie, il y a un aspect juste illusoire, mais moi ce que j'aime dans la pratique de la spiritualité, c'est de voir que notre individualité, même si elle peut sembler d'un certain point de vue illusoire, et pas que d'un point de vue au niveau de l'expérience, mais même si on y réfléchit vraiment à l'individualité, ce n'est pas possible. En fait, il n'y a pas de possibilité d'une existence indépendante. Et pourtant, prendre soin de ce mythe de nous-mêmes pour qu'il soit beau, s'envisager de la façon la plus belle possible et donc travailler à être de plus en plus une belle personne est tout aussi nécessaire que d'apprendre à n'être personne ou de réaliser que toute cette identité est relative et conventionnelle. Donc ce chantier que j'ouvre là, c'est un chantier énorme, aussi vaste que la vie, et ce sont des thèmes sur lesquels on n'arrive pas à une conclusion. Ce sont des thèmes qui nécessitent qu'on les digère et qu'on ait toutes les digestions comme les vaches. Ça revienne et qu'on le redigère et qu'on le redigère encore, qu'on l'explore et qu'on l'explore dans son expérience de méditation aussi. Merci pour votre écoute.